RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans la nouvelle émission de philosophie « Chemin de pensée, les neveux de René ». Vous êtes en compagnie de Nazim Fattès, de Sylvain Contasso et de Nicolas Lemoine. Notre but est d'entrer en contact avec la philosophie et de cheminer dans ses différents paysages. Cette discipline, qui passe pour être difficile d'accès, eh bien nous faisons le pari de la faire découvrir à des auditeurs de radio, en partageant des questions. Alors, nous ne sommes pas des philosophes de métier, mais simplement des amateurs. Alors, nous sommes des scientifiques de métier qui ressentons le besoin d'interroger des textes et de partager notre questionnement. Alors, nous souhaitons que ces textes soient des ressources et que le dialogue avec les maîtres nous aide à penser notre temps. Nous vivons en effet un temps qui est plus que tourmenté. Les catastrophes se succèdent les unes aux autres. On peut penser aux catastrophes écologiques, on peut penser aux guerres qui ne cessent d'être présentes, à la souffrance des peuples qui sont pauvres, déshérités, qui subissent la faim ou qui subissent le déracinement à échelle mondiale. Le XXe siècle a été un siècle rempli de barbarie et le XXIe siècle ne s'annonce pas nécessairement meilleur. Comment pouvons-nous faire face à tous les défis qui se posent à nous? Eh bien, notre pari, notre position sera de penser que la philosophie, si elle n'apporte pas de réponse toute faite à ces questions, nous aide à faire face, elle nous aide à questionner avec tout le calme et la pondération qui s'impose dans ces situations de difficulté. Et nous souhaitons en toute simplicité interroger les textes des grands maîtres du passé et voir comment ils peuvent nous apporter un regard critique sur nos présents et nous aider à cheminer. Alors, si nous avons intitulé cette émission « Les neveux de René », c'est parce que dans l'histoire de la philosophie, un des moments les plus importants sera le développement de la philosophie qui va prendre la forme des sciences dites modernes avec l'œuvre de Descartes. Et Descartes nous dit en fait qu'il a travaillé à construire des nouveaux principes de pensée. Et il nous dit
« Mais enfin, si la différence qu'ils verront entre ces principes et tous ceux des autres, et la grande suite des vérités qu'on en peut déduire leur fait connaître combien il est important de continuer en la recherche de ces vérités, et jusque à quel degré de sagesse, à quelle perfection de vie et à quelle félicité elles peuvent conduire, j'ose croire qu'il n'y en aura pas un qui ne tâche de s'employer à une étude si profitable, ou du moins qui ne favorise et ne veuille aider de tout son pouvoir ceux qui s'y emploieront avec fruit. Je souhaite que nos neveux en voient le succès. »
Alors cette citation nous interpelle parce qu'elle nous dit finalement, Descartes nous laisse un héritage et il nous dit « Ah bah ceux qui suivront n'auront qu'à développer cette philosophie et ils en ressentiront une grande joie, ils se rendront comme maîtres et possesseurs de la nature. » Or ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que loin d'être un programme qui a conduit à l'apaisement de l'humanité, l'humanité est soumise à grand nombre de tourments, et c'est des choses qui sont à grande échelle, mais que chacun ressent dans sa vie de tous les jours. Alors, nous n'allons pas seulement parler du XVIIe siècle en philosophie, mais commencer notre investigation des chemins philosophiques par les Grecs, là où la philosophie est née, et avec un des plus illustres philosophes, à savoir Socrate.
À savoir les Grecs anciens.
Au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, à Athènes, un homme est accusé devant un tribunal, l'accusation a parlé, c'est son tour de plaider sa défense, et il commence son discours ainsi.
Je ne sais trop, Athéniens, quels effets mes accusateurs ont pu produire sur vous. Pour moi, en les écoutant, j'ai failli oublier qui je suis, tant leur discours était persuasif. Et pourtant, sans exagérer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai. Mais parmi tant d'inventions, voici ce qui m'a le plus étonné. C'est qu'il vous ait prévenu d'être sur vos gardes et de ne pas vous laisser tromper par moi en me représentant comme un discoureur habile. Non mais vraiment, pour s'exposer ainsi sans honte à se faire immédiatement convaincre de mensonge, quand j'allais me montrer absolument incapable de bien parler, quelle impudence, ne faut-il pas ? À moins peut-être qu'il n'appelle habile à parler quiconque dit la vérité. S'il l'entend ainsi, je conviendrai alors que je suis orateur. Seulement, ce ne serait pas à leur manière.
Alors, merci pour cette lecture. Cette lecture était faite par Sylvain Comtesse-Auvivier. Est-ce que vous pouvez donner quelques éclairages ? Qui est cet homme accusé ? Pourquoi est-il accusé ?
Donc, l'homme en question, c'est Socrate. Hein, qui est donc ça se passe dans la Grèce antique à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc il est accusé en fait de pervertir la jeunesse et d'introduire des faux dieux dans la cité. Dans la cité, bien sûr, grecque, hein, ancienne, donc ici c'est Athènes en l'occurrence.
Très bien. D'où est tirée cette lecture ?
Donc la lecture vient de l'Apologie de Socrate, hein, qui est... un des textes écrits par Platon, puisque Socrate lui-même n'a pas écrit quoi que ce soit, en fait, n'a pas laissé d'écrit. Donc c'est Platon, en fait, qui relate toute cette apologie qui, en fait, on va le voir, on va expliquer un petit peu, est finalement la défense de Socrate lors de son procès.
Alors, travaillons par méthode. Une première chose qu'on peut dire, conseiller à nos auditeurs, c'est de se procurer le texte de l'Apologie. Alors, on peut se les procurer, le mieux c'est de prendre la version bilingue qui est éditée aux éditions Les Belles Lettres. Alors, c'est très utile d'avoir le texte grec et le texte français sous les yeux, même si on n'est pas très familier avec l'alphabet grec. Alors l'alphabet grec, souvent on peut le connaître parce qu'on a fait des études scientifiques, on a rencontré les lettres alpha, pi, lambda, et ainsi de suite dans ces études scientifiques, donc il ne faut pas en avoir peur. Et puis tout de suite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit écrit sur le texte français « Apologie de Socrate » et le texte grec dit « Apologia Socratus ». Alors, quelques éclaircissements. Que signifie le mot apologie ?
Donc, apologie, en fait, ça vient de deux mots, hein, le préfixe apo et le suffixe logie. Donc, apo, en fait, en grec, c'est un préfixe que l'on retrouve dans le mot français, hein, apôtre, apostrophe, apostasie, apogée, apothicaire, apoplexie, etc. Et ce mot signifie, signifie l'éloignement, la séparation. D'un autre côté, donc, le suffixe logie, donc, là c'est pareil, hein, c'est quelque chose que l'on retrouve dans un bon nombre de mots, géologie, analogie, cosmologie, scientologie, pathologie, trilogie, etc. Et en fait, ce logie, c'est quelque chose de vraiment important dans tout ce qui va nous intéresser, parce que c'est un mot vraiment essentiel. C'est ce qui désigne, en tout cas dans la Grèce antique, à l'époque, la parole. Le problème de logis, c'est que c'est un mot qui est associé à beaucoup de sens, donc qui renferme vraiment une richesse de sens importante. Donc là, il faut arriver à être assez précis sur ça. C'est d'ailleurs l'intérêt aussi d'aller voir l'origine des mots et donc les mots grecs hein, qui nous intéressent dans les textes, parce qu'on peut retrouver vraiment le sens, on va dire, dans le contexte de l'époque.
Oui. Nicolas, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le logis, ce mot de logis qu'on entend dans biologie, géologie, théologie, etc.
Dans les sciences, c'est pas n'importe quel discours, c'est pas le discours du beau parleur dont a parlé Socrate dès les premiers mots de son discours. C'est le discours raisonné, ou au moins le discours vrai.
Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que tu viens de dire raisonner, et c'est vrai que le mot logos, donc qui donne le logis, souvent le ramène à raison, donc ratio. Donc rationnel, etc. Or, chez les Grecs, c'est quand même assez différent, et c'est intéressant de voir que ce qui désigne chez eux logos, c'est la parole, et si j'ai bien retenu de mes lectures, l'ego, ou legaine, l'ego, ça signifie un petit peu rassembler. Alors on pourrait donner une image qui est que l'ego, donc qui donne ensuite logos, c'est faire un bouquet de fleurs. Pourquoi ? Parce que c'est rassemblé dans le divers qui se propose à nous. Hein. On voit des plantes, des fleurs, des choses comme ça autour de nous. On voit le ciel, on voit une société, on voit tout un tas de choses. Et on va extraire des éléments, les mettre ensemble. Et c'est ça, parler pour les Grecs, c'est faire un bouquet de fleurs à partir de ce qui se propose à nous. Alors on peut, faisant ce bouquet, réussir ou se planter. Et effectivement, il ne s'agit pas de s'y prendre n'importe comment. Enfin bon, l'artisan qui fait un beau bouquet, il a un certain savoir. Voilà. Donc c'est dans cette entente-là que les Grecs voient le mot logos, mais on y reviendra plus tard. Évidemment, c'est un mot extrêmement riche qu'il faudra attendre. Mais ce qui est important de noter, c'est que apologie, c'est un sens strictement juridique.
Judiciaire, oui.
Et il ne s'agit pas ici d'entendre apologie au sens défense, comme on dit apologie du terrorisme, apologie de crimes de guerre ou n'importe quoi. C'est apologie de Socrate signifie la défense, le plaidoyer de Socrate. Voilà. Alors, quels sont les mots grecs, lorsqu'on a le texte grec sous les yeux, qui peuvent attirer notre attention ? Et pourquoi on peut dire que dès ce premier paragraphe, nous sommes en prise avec la philosophie ?
Eh bien, le premier mot, c'est sans doute le mot vrai, la recherche du vrai, aletheia en grec. Et donc, il est question de mensonge, son contraire, et de vérité, et du lien entre la vérité et le discours, justement. Puisqu'il peut y avoir des discours vrais, comme il peut y avoir des discours mensongers et trompeurs. Et donc ça, c'est effectivement...
Alors, une chose qui est intéressante à noter, c'est que Socrate lui-même est accusé d'être un discoureur habile.
C'est ça.
Voilà. Et donc, Socrate, qui de toute sa vie n'a fait que combattre les sophistes, donc les sophistes sont les professionnels de la parole, ceux qui prennent très cher pour apprendre aux autres à discourir, à bien parler et à toujours avoir raison.
Et les rhéteurs. Et les rhéteurs, forcément voilà, sophistes.
Tout à fait. Et donc, il est lui-même accusé d'être un discoureur habile et il va évidemment s'en défendre. Un petit mot technique aussi, c'est que les accusateurs sont appelés catégoron, hein, c'est categoria, donc, qui donne le mot catégorie. Hein, donc, c'est drôle parce que on ne voit pas a priori quel peut être rapport entre accusation et catégorie. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans le cours des émissions. Alors Nicolas, tu veux lire le second paragraphe de ce texte ?
En tout cas, je le répète, ils n'ont rien dit, ou presque rien qui soit vrai. Moi, au contraire, je ne vous dirai que la vérité. Oh, par Zeus, ce ne sera pas athénien en un langage exquis comme le leur, tout enjolivé de noms et de verbes élégants et savamment agencés. Non, je parlerai tant bien que mal, comme les expressions viendront à moi. Tout ce que j'ai à dire est juste, voilà de quoi je suis sûr. N'attendez pas de moi autre chose, il serait par trop malséant en juge qu'un homme de mon âge vînt devant vous me donner ces phrases, comme le font nos petits jeunes gens. Voyez-vous, Athéniens, ce que je vous demande, ce que je vous réclame, c'est ceci. Si vous m'entendez m'exprimer en plaidant ma cause, comme j'ai coutume me faire, soit sur la place publique, auprès des comptoirs des marchands, où beaucoup d'entre vous m'ont entendu, soit ailleurs, alors n'en soyez pas scandalisés et n'allez pas protester. Car sachez-le bien, c'est la première fois aujourd'hui que je comparais devant un tribunal. Or, j'ai 70 ans. Je suis donc tout à fait étranger au langage d'ici. Eh bien, si j'étais effectivement un étranger à Athènes, vous m'excuseriez assurément de parler avec l'accent et le dialecte de mon enfance. De même, il me paraît juste, et c'est ce que je sollicite, que vous me laissiez m'exprimer à ma façon. Elle sera ce qu'elle sera, plus ou moins bonne. La seule chose qu'il vous faille considérer, et cela très scrupuleusement, c'est si mes allégations sont justes ou non. Tel est en effet le mérite propre du juge, celui de l'orateur, et de dire la vérité.
Un autre regard sur la vie, RCF.
Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous êtes bien sur RCF dans l'émission Les Neveux de René, Chemin de pensée, donc l'émission qui est consacrée à la philosophie.
Et nous venons de lire un extrait de l'Apologie de Socrate, qui se trouve tout au début.
Donc c'est le deuxième paragraphe de l'Apologie, donc le tout début, dans la traduction parue aux éditions Les Belles Lettres, établie par Maurice Croiset.
Alors ce qu'on peut rappeler ici par rapport justement à ce paragraphe, c'est déjà qui sont les Athéniens.
Alors, que signifie athénien ? Alors, athénien, évidemment, on peut le prendre dans un sens purement géographique. Hein, comme on dirait les Nancéens, c'est ceux qui habitent à Nancy. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça. En fait, il y a évidemment un sens géographique, mais la cité grecque n'est pas seulement définie par une appartenance géographique. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, qu'est-ce qu'on entend dans athénien ?
Oui, tout à fait, Nazim. Donc, en fait, les Athéniens... ce sont ceux qui se mettent sous la protection de la déesse Athéna. Donc évidemment, en Grèce antique, la religion, les dieux sont très présents hein, dans la cité. Et donc les populations se mettent sous la protection d'une divinité. Et donc les Athéniens, c'est l'ensemble des personnes qui se mettent sous la protection d'Athéna. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des Athéniens qui n'habitent pas forcément la ville d'Athènes.
Alors, c'est non seulement les dieux sont très présents, mais ils sont la fondation, finalement. On voit que là, c'est-à-dire, on ne fait exister une cité que dans une espèce de pacte avec la divinité. Et ce pacte avec la divinité va être au cœur du procès de Socrate. Pourquoi ? Puisque les accusateurs vont...
Reprocher à Socrate
de dire
de ne pas honorer comme il faut les dieux de la cité
et d'introduire de nouveaux dieux. Alors, ce qui est évidemment qui pose problème.
Et le mot qui a été prononcé par Nicolas est un mot clé. Tu as prononcé le mot de religion. Il ne faut pas entendre le mot religion comme on peut l'entendre pour les trois religions monothéistes.
Tout à fait.
C'est-à-dire l'idée de religion, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, le concept de religion, ou la façon dont les Grecs sont liés à leur dieu, est extrêmement différente de ce qu'on peut vivre, ce qu'on a pu vivre par la suite. Et on y reviendra. Et donc, lorsque Socrate est accusé d'impiété, soit de ne pas croire au dieu de la cité, soit d'en introduire de nouveau, il faut entendre le mot « croire » d'une façon assez différente de celle qu'on... Les Grecs ne croyaient pas à leur dieu comme juifs, chrétiens et musulmans croient à leur dieu. Et donc, ce sera pour nous un sujet de discussion. Mais il s'agit évidemment d'honorer la divinité, et elle est extrêmement présente. Et on voit que dès le début... la philosophie se fait par une espèce de relation intime avec le divin. Il n'est pas question. Et évidemment, la défense de Socrate, on le verra plus tard, c'est de se présenter comme envoyé de la divinité.
Comme quelqu'un de très pieux.
Voilà.
Comme le plus pieux. Retourner l'accusation en disant « Mais non, au contraire, je défends les dieux. »
Alors, ça, c'est important. Ça, c'est important, puisque souvent, on se demande « Qu'est-ce que c'est que la philosophie ?» Alors, on peut revenir. Philosophia est un mot grec. Alors, refaisons un petit peu de philologie. qui veut bien nous éclairer sur ces racines de philo et de sophia ?
Le début du mot est peut-être le plus facile. Philo, ça vient du verbe philéo qui veut dire aimer. Donc, c'est l'amour de.
Et la sophia, en fait, c'est la sagesse. Donc, le savoir, la sagesse, plutôt.
La sophia, justement, c'est un terme plus ambigu, parce que ça veut à la fois dire originellement l'habileté manuelle, mais aussi le savoir, la science, et aussi la sagesse. Alors, toutes les choses que nous ne pourrons que distinguer par la suite.
Alors, une chose qui est intéressante, aussi pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas tout à fait familiers avec le travail de philosophie, c'est que quand on lit un texte, il s'agit de revenir aux mots. Bon, ce n'est pas pour briller en société, mais vraiment parce que c'est intéressant de voir comment les mots grecs sont traduits différemment ou avec des sensibilités différentes en français. Et ça, c'est remarquable dans le texte de l'Apologie. Quand on dira de Socrate qu'il est sophos, donc qui donne le mot sophia, hein, c'est l'adjectif qui correspond à ça, dans différentes traductions, si on regarde, je crois, la traduction des Belles Lettres, on voit que c'est traduit par savant, alors que dans la traduction Garnier Flammarion, c'est le mot sage qui est utilisé. Or, dans notre langage de tous les jours, un savant c'est pas quelqu'un nécessairement de sage, et vice-versa. C'est-à-dire, l'image du savant, c'est le savant en blouse blanche, l'universitaire que nous côtoyons, nous trois, régulièrement. Alors que le sage, c'est le vieux monsieur qui a toute l'expérience de la vie. Et c'est intéressant que chez les Grecs, c'est Sophos. Et c'est peut-être plus l'artisan qui est Sophos, celui qui s'y entend, qui s'y connaît, que le savant universitaire ou le vieux sage.
Et d'ailleurs, il sera intéressant aussi de revenir justement sur la définition de sage, hein, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui peut poser problème.
Ça va être un des arguments de l'apologie de Socrate. Voilà. Mais pour aller dans le sens unanime, donc effectivement, le souci de se rappeler les mots grecs, c'est le souci de se rappeler que pour pénétrer ces textes, il est nécessaire de se laisser dépayser. Puisque la façon de penser des Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ est évidemment fort distincte de la nôtre, et que pour rentrer dans ce texte réellement et en tirer quelque chose d'utile, il faut quitter un peu notre monde et se laisser devenir étranger dans...
D'ailleurs, c'est drôle que tu prononces le mot étranger, puisque c'est le mot qui est prononcé lui-même par Socrate.
Et par Socrate, oui, il se dit étranger, oui.
Alors c'est curieux, parce que Socrate, c'est le moins étranger à Athènes. On peut rappeler quelques éléments de biographie, même si ce n'est pas l'objet principal. C'est que Socrate n'a quasiment jamais quitté sa ville. C'était un citadin. Et il dit « j'ai quitté deux ou trois fois Athènes, alors peut-être pour les campagnes militaires,
et bien sûr.
Et simplement pour ça, il a été soldat. Et puis il y a un discours, par exemple le Phèdre, où il va à la campagne pour écouter un discours de Phèdre. Mais Socrate, c'est l'Athénien par excellence. Et où est-ce qu'on le voit ? Où est-ce qu'on le voit dans ce petit paragraphe ? On le voit en disant, quand il dit « voyez-vous Athénien ?» Ce que je vous demande, ce que je réclame de vous, c'est ceci. Si vous m'entendez m'exprimer en plaidant ma cause comme j'ai coutume de le faire, soit sur la place publique, auprès des comptoirs des marchands, où beaucoup d'autres vous m'ont entendu, soit ailleurs, n'en soyez pas scandalisés, n'allez pas protester. Autrement dit, Socrate devrait jouer le jeu s'il veut être sauvé et ne pas être condamné. De jouer le jeu de la plaidoirie. Or, il dit non, moi je vais continuer à parler comme j'ai toujours parlé auprès de vous dans l'agora. Donc je ne vais pas. Et le mot agora est un mot intéressant. C'est-à-dire que Socrate, c'est un animal politique par excellence.
Mais qui se tient à l'écart des assemblées. Il se tient sur les places publiques, petit comité. Il fuit les assemblées.
Effectivement, à conquérir un pouvoir politique, en fait. Et ils sont distingués.
Et il parle aussi comme si le langage de la vérité était un langage étranger à Athènes. Athènes, qui est censée être la cité sous la tutelle de la déesse de la sagesse et de la guerre juste, eh bien, il se comporte comme si, finalement, le langage de la vérité était un langage étranger à Athènes.
Exactement. Et on va voir plus tard qu'il va être, finalement, quasiment dans une escalade de plus en plus de provocations. Et dès le début, Socrate, on voit ici qu'il est déjà... en train de placer sa plaidoirie sur le thème du combat, puisqu'il dit « Écoutez, moi, je n'ai pas à modeler mes phrases, je n'ai pas à faire d'efforts pour parler d'une façon qui vous sera agréable. Tout ce que je vous demande, c'est de dire est-ce que je suis juste ou pas.
» Une dernière remarque que l'on peut faire, c'est aussi l'âge avancé de Socrate au moment de son procès, puisqu'il a 70 ans. Donc on voit qu'il a déjà fait toute sa vie, en fait. Hein. Et donc ça, c'est pareil, c'est un élément qui est intéressant, en fait, de voir que c'est vraiment à la fin de sa vie qu'il est... Enfin, fin de sa vie, d'une vie d'homme, on va dire, surtout pour l'époque, 70 ans, qu'il est accusé, en fait.
Et donc on va peut-être conclure pour aujourd'hui. Alors c'était notre premier contact avec un texte philosophique. Donc nous le parcourons pendant plusieurs émissions, donc le temps que les auditeurs puissent se procurer la bonne traduction et la bonne édition de ce livre et de le méditer eux-mêmes.
Alors un petit conseil aussi pour les auditeurs. Donc évidemment, on peut se procurer ce texte sur l'internet, mais peut-être que c'est mieux de l'avoir en version papier. En termes de méthode, c'est toujours bien de souligner les mots intéressants, de garder des notes, puisque quand on relit un texte un an après, enfin les textes philosophiques sont faits pour être lus et relus, hein, toujours médités et remédités. C'est toujours bien de prendre des notes, ça c'est vraiment important, parce que on ne sait pas dans quel état d'esprit on sera quand on reviendra à ce texte. Donc le meilleur conseil qu'on puisse donner à nos auditeurs, c'est toujours de lire, relire et de prendre des notes et de s'intéresser à lire de près les mots. Voilà. Alors la question qu'on se posera dans les prochaines émissions, c'est qui est Socrate ? Pourquoi est-il appelé le plus sage des Athéniens, alors que tout ce qu'il dit, c'est qu'il ne sait rien ? Et pourquoi a-t-il été condamné ? Pourquoi n'a-t-il rien écrit ? Et pourquoi Socrate nous est nécessaire aujourd'hui, nous, habitants du 21e siècle ?
Tout à fait, Nazim. À la prochaine émission.
Au revoir.
Au revoir. À la semaine prochaine.